De l'Évangile selon saint Luc. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Voilà, je vais reprendre au fur et à mesure de mon propos ce soir cet évangile. C'est donc un temps d'école de raison. Donc il y a une partie d'apprentissage. Et alors, en préambule, je voulais nous stimuler dans cet exercice, finalement, que nous faisons ensemble, car, on l'a entendu la semaine dernière, dans l'évangile de Matthieu, quand tu pries, nous dit le Seigneur, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Cela peut être difficile pour nous. Vous n'êtes peut-être pas des adolescents, vous ne vous promenez peut-être pas dans la rue avec votre casque sur les oreilles, votre MP3. Enfin, vous avez tous une chaîne Wi-Fi chez vous ou une télévision. Et en tout cas, quand vous rentrez dans votre chambre, peut-être pour prier, il se peut que le téléphone sonne. Il y a plein d'occasions, finalement, dans notre vie qui nous rendent la tâche difficile. Et puis là, quand je dis ces exemples, je ne parle pas de tous les bruits intérieurs. Toutes les choses qui peuvent nous revenir à la mémoire et qui peuvent peut-être nous empêcher de demeurer en silence, en tout cas de pouvoir écouter. Parce qu'il s'agit bien de cela dans la prière, écouter le Seigneur qui nous parle. Et donc, il est important, voilà, d'entrer, d'apprendre à se mettre à cette écoute. Voilà, ce constat qu'on peut faire et que nous faisons tous, le pape le fait, et c'est pour ça, à mon avis, que depuis des mois, il fait des catéchèses tous les mercredis, qu'il a intitulé précisément « École de prière ». Alors, je voulais vous faire remarquer ça, et il souligne une chose qu'il redit quasiment chaque mercredi, j'ai regardé les catéchèses, et il dit « Écoutez, méditez, observez le silence devant le Seigneur en sa présence, est un art qui s'apprend en le pratiquant avec constance. » Alors avant d'entrer dans le sujet spécifique du rôle de l'Esprit Saint dans la prière, ou de la part de Dieu dans cette prière, je voudrais rappeler les deux dimensions de cette prière. Le Père Patrick Lemoine en a parlé, mais je voudrais le redire avec d'autres mots. La prière, c'est à la fois un don de Dieu et un talent, on pourrait dire, qui nous est confié, qui est confié à la liberté du baptisé que nous sommes pour qu'il le fasse fructifier. La prière est assurément à la fois un don. don du Seigneur qui demande d'être accueilli par nous, bien sûr. C'est l'œuvre de Dieu qui, en même temps, exige un engagement et une continuité de notre part. Je crois qu'il y a cette continuité, cette persévérance qui sont une dimension très importante de la prière. Et encore, une dernière remarque, cette prière dans laquelle nous entrons, qui est à la fois don de Dieu et accueil de notre part, elle porte des fruits pour nous, mais elle porte des fruits aussi pour ceux qui nous entourent. Le fait d'entrer et de travailler à cette relation avec le Seigneur a des conséquences sur nos relations évidemment avec les autres. On ne peut pas séparer ces choses-là. Alors je reprendrai plus précisément tout à l'heure. Alors, en introduction, je vous propose, j'ai suivi l'évangile selon saint Luc, qui, dans laquelle j'ai relevé 13 occurrences du mot Esprit-Saint. Alors, je m'arrête sur le... C'est pas la première, c'est la 8e. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup au début. Il y en a 9 dans les 4 premiers chapitres. C'est le moment du baptême du Seigneur, puisque l'évangile de Luc prend le soin de préciser qu'après cette démarche dans laquelle Jésus entre avec le peuple, qui se met à la suite de Jean-Baptiste pour entrer dans un baptême de conversion, l'évangéliste nous précise que Jésus entre dans une prière personnelle et prolongée. Alors je vous lis le passage. Or il advint une fois que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix partit du ciel, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » C'est précisément, me semble-t-il, le fait de prier, d'entrer en dialogue avec le Père, qui va illuminer l'action que Jésus vient de poser, et c'est cela qui va nous donner à nous de le comprendre. C'est en obéissant à la volonté de son Père et en se rendant solidaire de chacun d'entre nous que Jésus va donner, dans cette communion au Père, à l'Esprit Saint de nous manifester, de nous donner d'entendre qui il est et ce qu'il fait. Et je vois qu'il y a ce mécanisme dans notre prière, c'est qu'elle est un don de Dieu, elle est cette approche que Jésus fait de nous, Jésus se rend solidaire de chacun d'entre nous, tout en demeurant unis au Père, et l'Esprit Saint vient nous éclairer sur qui il est, celui qui se rend solidaire de nous, et qui nous sommes, nous, dans notre démarche vers lui. Alors je vais essayer de préciser cela maintenant. Il y a donc, dans ce contact avec Dieu, dans cet élan du cœur, pour reprendre les expressions qu'on a entendues la semaine dernière, dans ce commerce d'amitié, un contact entre deux personnes, entre deux êtres vivants. Il est donc normal que ces deux personnes contribuent à la relation. Alors on voit bien le travail que nous pouvons faire, se retirer dans sa chambre, se taire, se recueillir, et voilà, ce que nous faisons matériellement pour entrer dans la prière. Peut-être ce qui est plus difficile, c'est cette part de Dieu. Alors, nous avons un peu essayé de préciser ce recueillement, en tout cas avec des exemples la semaine dernière, recueillement de nos sens, par notre intelligence, et puis par la foi. Foi dont on prendra le temps la semaine prochaine de préciser cet acte. Seule la foi ça, cet acte de confiance, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, est capable d'atteindre Dieu. Nous sommes séparés de lui, nous ne sommes pas Dieu. Il est tout autre. Par la foi, nous avons accès à lui. Foi qui est elle-même greffée, appuyée, fondée sur notre raison. Elle-même qui est en nous, dans notre corps. Nous sommes un être et nous tournons vers Dieu. Alors, parler du rôle de l'Esprit Saint, c'est dire cette part de Dieu dans cette relation que nous avons avec lui dans la prière. Parler du rôle de l'Esprit Saint, c'est dire que ce travail d'union que nous faisons avec Dieu, dans ce travail d'union que nous faisons avec Dieu, c'est lui qui est l'agent principal, c'est lui qui va faire quelque chose à nous-mêmes qui nous disposons à cela. Pourquoi ? Parce qu'il est amour. Dans ce mouvement d'amour qu'il nous porte, il nous rejoint. Alors il y a plusieurs manières dont il nous rejoint. Il a commencé par nous parler. Il a ensuite à Abraham. Et puis il a envoyé des prophètes. Et puis finalement, il a pris chair de notre chair. Et aujourd'hui, il se rend présent à nous de multiples manières, dans les sacrements, par la grâce, ce que nous appelons la grâce. Et par notre grâce baptismale, il nous rend capable, par la foi, de le recevoir, de l'accueillir, lui, qui vient vers nous. Et finalement, cette venue du Seigneur, alors on peut dire dans l'Église, dans l'Eucharistie, mais c'est le même mouvement lorsqu'il descend aussi vers nous. Voilà ce que fait l'amour. Alors dans notre mouvement vers Dieu, dans notre rencontre avec lui, c'est lui l'agent principal. C'est ça que je voudrais essayer de vous montrer ce soir. C'est lui qui est l'agent principal du travail de cette rencontre. Et c'est une vérité qui est importante que nous devons admettre, parce que me semble-t-il, c'est elle qui va nous permettre d'avancer dans cette relation. Il y a deux secours, dit Sainte Thérèse d'Avila, un secours général au début de la vie spirituelle, puis un secours particulier. Un secours général, ce qu'elle appelle le secours général, c'est ce secours, c'est cette aide, cette grâce de Dieu qu'il nous fait, mais que nous n'expérimentons pas peut-être précisément en tant que tel. Alors l'exemple que nous pouvons prendre, c'est le fait de venir d'être là. Vous voyez, le fait d'avoir décidé de venir approfondir ce que c'est que l'oraison, ou le fait de décider de faire sa prière et de s'y disposer, de se recueillir, nous pensons, et c'est vrai, que c'est nous qui l'avons décidé. Vous voyez que c'est notre part. Saint Thérèse d'Avila explique que oui, c'est notre part, mais en réalité, si nous avons pu choisir, c'est déjà aidé par le Seigneur. Et donc, ce qu'elle appelle le secours général, c'est cette grâce sous-jacente qui nous meut, qui nous pousse, qui aide notre volonté, voyez, à se déterminer dans son mouvement vers le Seigneur. Dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Saint Jean, la parabole de la vigne, qui est une belle manière de décrire finalement cet exercice de l'oraison, voyez, c'est la parabole du sarment qui est greffée sur cette vigne. Nous sommes les sarments, peut-être lorsque nous faisons oraison, nous sommes comme ce sarment qui nous laissons traverser par la sève, voyez, qui monte et qui va donner ce fruit. Le fruit, il est pleinement le nôtre, il est pleinement celui du sarment, mais il ne serait rien sans cette sève donnée par le Seigneur qui le traverse. Alors, il y a ce verset dans ce chapitre 15 de Saint Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ou autrement dit, comme dirait Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, « C'est lui qui fait le vouloir et le faire. Voilà. Alors cela, voilà, me paraît important de le préciser. Voilà. Ce primat, si vous voulez, de l'action de Dieu, même en acte, dans ce que nous percevons nous-mêmes, dans notre, avec notre conscience, avec tout ce que nous sommes, comme notre acte. Voyez. C'est peut-être la délicatesse de Dieu, voilà, qui fait cela, qui fait que nous croyons que nous sommes l'auteur de son don. Voilà. En même temps, encore une fois, le don, et là je répéterai sans cesse, qu'il nous fait, n'est efficient qu'accueilli. Et vous voyez bien, c'est inséparable. Il ne fait pas sans nous. Alors c'est pour cela qu'au début de l'oraison, on peut être bon, voilà, d'invoquer l'Esprit-Saint, voilà, d'invoquer cet agent vivant, si on peut dire, l'amour du Père et du Fils qui se donne et qui est celui qui nous a donné tout simplement de nous mettre en prière. C'est cet Esprit-Saint qui nous fait trouver le Christ. Et c'est lui qui, nous faisant trouver le Christ, nous donne de nous tourner avec lui vers le Père. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors pénétrer de cette action de Dieu, on comprend que voilà, il y a cette nécessité de recourir à lui. Voilà, ce principe qui finalement commande toute notre attitude, à la fois de prière, mais finalement toute notre vie spirituelle. Attitude de confiance. Alors vous connaissez, il nous l'a expliqué hier, la semaine dernière, avec la parabole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est en bas de l'escalier. Voilà. Ce sont vos bras, ô Jésus, c'est la grâce de Dieu qui me donnera d'avancer. Voilà. Mais, au bas de l'escalier, il s'agit pour elle d'appeler le Seigneur, en montrant son désir de monter, alors elle dit, voilà, en levant son pied. Voilà. Mais à la vue de ce pied qui se lève, le Seigneur, le bon Dieu, lui, descendra, viendra la chercher. Ce qui me fera monter, peut-être, ce sont vos bras, ô Jésus. Voilà cette attitude de l'oraison, cette attitude de confiance. Voilà. Oui, je ne vais pas faire un plan détaillé, mais voilà donc ce primat de l'action de Dieu, et reconnaissant ce primat de l'action de Dieu, bah, plusieurs attitudes. La première, c'est cette confiance, faire un effort en appelant cette action de Dieu, cette grâce, en appelant l'Esprit-Saint, sachant bien que seul, nous ne pouvons pas monter, nous ne ferons rien, notre effort sera inefficace. Là, je ne résiste pas à vous lire ce passage toujours de l'Évangile de Luc. Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe, à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, et qui à la place du poisson lui remettra un serpent? Ou encore s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le prient ? Comptez sur la grâce de Dieu. Alors dans l'Annonciation, on voit ce mécanisme. On voit à la fois ce primat, cette initiative de Dieu qui visite Marie par l'ange. Bien sûr, Marie est fidèle, Marie connaît les Écritures, elle vit dans une relation de foi avec son Dieu, mais voilà, il y a le primat, elle ne s'attendait pas. Et elle entend la parole, et elle l'entend avec son intelligence. Sa première réaction, bah, c'est de questionner, de raisonner cette parole qui vient, et qu'elle a entendue, et à laquelle elle porte crédit d'ailleurs. Elle pose question. Et puis dans un deuxième temps, l'ange, Dieu par l'ange, va la conduire à cette action que Dieu veut réaliser lui seul. L'Esprit-Saint te prendra sous son nom. Là, on ne peut pas dire qu'elle peut comprendre. Elle a compris ce qu'elle avait à comprendre, et elle fait un pas supplémentaire, le pas de la foi précisément, et qui lui donne de se rendre disponible, elle consent, elle accueille cette action de Dieu. Voilà. Mais cela c'est possible dans cet esprit d'attente, de compter sur la grâce de Dieu, sur sa force, sur la puissance de son bras, sur la puissance de son esprit. Et qu'effectivement, nous ne sentons pas, nous n'éprouvons pas, nous ne le voyons pas. D'ailleurs, le texte de l'Annonciation, l'Esprit Saint, l'Esprit, te prendra sous ton ombre. L'ombre d'un esprit, c'est pas grand chose. Et c'est absolument pas sensible. D'où la difficulté. Alors, c'est un deuxième point. Le deuxième point, c'est. La première, c'était la confiance. Le deuxième, c'est cette pauvreté, cette difficulté, finalement, qu'il faut reconnaître. Nous ne la connaissons que trop. C'est-à-dire que dans cette expérience de cette relation avec Dieu, et voilà, nous expérimentons notre insuffisance, notre inadaptation, j'allais dire, à Dieu, notre pauvreté. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu est infiniment plus grand que nous, et parce que c'est lui, et lui seul, qui peut purifier notre confiance, qui certes existe, mais qui est aussi pleine d'appui ailleurs que sur lui. Et c'est un long travail pour nous-mêmes de n'appuyer notre confiance que sur lui. Alors il y a du coup cette épreuve qui fait que oui, parfois nous ne comprenons pas bien, nous nous demandons même si finalement nous prions, si nous pouvons même douter de notre propre foi alors que nous avons une fidélité finalement extérieure au Seigneur. Mais voilà, il vient de cette pauvreté, de cette inadaptation de notre humanité par rapport à la grandeur du Seigneur qui est à l'œuvre, à sa toute puissance d'amour. Et ce n'est pas une épreuve au sens où cela nous couperait du Seigneur, mais c'est plutôt l'épreuve de la vérité de ce qu'est Dieu et de la petitesse de ce que nous sommes. Et précisément le chemin de l'oraison qui nous fait au début et puis peut-être toujours éprouver justement cet écart qui fait dire à beaucoup de saints, à tous les saints, combien ils sont pécheurs, rend éprouve, purifie comme l'or au creuset notre foi. Cette expérience des réalités surnaturelles qui commande la vie d'oraison, à savoir notre faiblesse et la puissance de Dieu. Et alors là, eh bien, cette loi finalement de la vie spirituelle qui est de renouveler, de croire à cette efficience et cette unique efficience de l'action de Dieu. Seule la foi peut nous faire franchir ce fossé. Alors on voit bien dans le baptême du Christ et puis dans la conception du monde biblique, le monde, vous voyez, est dans un carré, si on peut dire, avec les eaux d'en bas et la terre, et puis le ciel est comme cette frontière infranchissable avec les eaux d'en haut, les eaux d'en haut, pardon, sur le ciel, qui nous sépare de Dieu. Nous sépare de Dieu. Et l'événement extraordinaire qu'opère Jésus, c'est précisément d'ouvrir, de faire un passage entre le ciel et la terre. Le ciel s'ouvrit et du ciel une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Par Jésus, et c'est bien par lui que nous prions, et on sait, alors je vous le dis, on sait combien Sainte Thérèse d'Avila a dit l'importance dans notre prière de nous attacher à Jésus, à son humanité, parce que précisément par lui, voilà, le chemin vers le Père est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Alors que le péché l'avait fermé, le ferme. Voilà. Alors, ça c'était la première période. Le secours général, comme je vous le disais au début, où nous avons l'impression que c'est nous qui faisons, que c'est nous qui agissons, alors, voilà, c'est que la grâce de Dieu, elle, apparaît comme une réalité cachée. Alors, il y a progressivement un deuxième secours qui arrive, avec toujours les termes de Thérèse d'Avila, un secours particulier. C'est lorsque l'action de Dieu se révèle chez nous, dans l'âme. Alors, selon saint Jean de la Croix, cette action de Dieu, elle se révèle dans l'âme, d'abord négativement. Et c'est ce que j'expliquais quand il y a cette perception de notre impuissance. Quand, dans la prière, nous expérimentons notre impuissance, que faire? Et même, on se demande si finalement c'est bonne femme du Seigneur. Voilà, saint Jean de la Croix nous dit que, comme en négatif, vous voyez, on expérimente déjà là cette action de Dieu. Alors Thérèse d'Avila, elle, dit que le secours particulier commence quand la grâce est éprouvée, reconnue de manière positive. Alors, comme je peux avoir une lumière, une compréhension sur une parole de l'Évangile sur laquelle j'étais parti, par exemple, pour débuter ma prière, ou alors un recueillement, alors que j'avais pu commencer ma prière énervée, et que, positivement, je dois bien me rendre à l'évidence à la fin de la prière, je suis en paix. Voilà, une grâce positive reconnue, notre conscience, sans conscience, nous reconnaissons. À un moment donné, l'action de Dieu se fait prédominante, se fait sentir, et elle va prendre la direction de l'âme. Et si jusqu'à ce moment-là, nous avons pu avoir la conscience, l'impression que c'est nous qui menions, qui tenions le mouvement de notre prière, là, au contraire, on a l'impression, on réalise que ce n'est pas nous qui menons, ce n'est pas nous qui sommes, qui tenons le gouvernail, si vous voulez, de notre prière. Voilà. Nous y consentons. Alors voilà, c'est cette phase du secours particulier. Voilà. Alors cette phase-là, elle se sent, elle se découvre dans la prière. On les distingue pour bien comprendre. Dans la vie spirituelle, c'est beaucoup moins clair. C'est pas parce qu'on expérimente déjà ce que sainte Thérèse d'Avila appelle le secours particulier qu'on n'a pas encore le secours général, vous voyez. On n'a pas encore besoin de la grâce de Dieu pour décider de prier ou de nous recueillir. Oui. La phase de transition est très longue. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas donné d'être véritablement nous par l'Esprit Saint. Nous l'espérons. Mais bien souvent, en tout cas, nous expérimentons ce double secours un petit peu en même temps. Il y a des périodes. Et ce secours particulier, cette grâce de Dieu éprouvée, donc on sent qu'il prend les rênes, ne va pas se traduire sur le plan de l'oraison seulement. Elle va même se traduire bien plus souvent en dehors de l'oraison. On va la reconnaître, cette action de Dieu, cette action de l'Esprit-Saint, je ne sais pas moi, dans mes relations avec les autres ou au travail. Je me savais par exemple difficilement contrariable ou pas très souple, et puis je vais me rendre compte que finalement, tiens, là j'ai accepté telle remarque ou tel changement, vous voyez, et vous allez reconnaître une action du Seigneur. C'est toute cette action de Dieu, bien sûr, elle touche notre personne, elle n'est pas restreinte à ce temps de l'oraison. Et dans ce temps de l'oraison, je travaille à son accueil. Je lui donne de faire son installation nécessaire, mais si on prenait une comparaison informatique, Il y a un temps de mise à jour, voilà, spécifique, ce que peut être intensément pendant ce temps de la prière, et puis qui va, voilà, qui va se déployer, qui va être utilisé dans toute notre vie. Alors ça voilà, je vous dis cela parce que je pense que lorsqu'on décide voilà, d'avancer, de cheminer dans cette prière silencieuse et l'oraison, voilà, il faut avoir les capteurs ouverts en dehors de l'oraison, qui peuvent nous aider et nous permettre d'avancer. Alors, vous pourriez dire, alors est-ce à partir de ce moment-là qu'il faudrait moins agir? Est-ce qu'on va moins agir lorsque Dieu prend la main? Non, moi je ne crois pas. Quand même, c'est plutôt le contraire. Je crois que c'est justement à ce moment-là où nous découvrons, nous éprouvons, nous croyons fortement que qu'il est le maître, ben, c'est précisément le moment où il ne faut pas se laisser dormir, mais au contraire, consentir de plus en plus à cette action. Et bien, il y a un travail qui est d'ailleurs douloureux, puisqu'il consiste finalement à s'appauvrir de tous les petits à côté, hein, comme je disais tout à l'heure, mais là, ils deviennent déterminants, parce que si nous les gardons, c'est lui que nous perdons. Et alors là, il y a voilà, cette période active qui consiste vraiment à s'accrocher justement à ce Dieu vivant. Hein, c'est ça la devise du Carmel, la première partie de la devise du Carmel. Il est vivant, le Dieu en présence de qui je me tiens, ce Dieu vivant qui est à l'œuvre. Là, il est à l'heure à la mesure où on lui laisse la place. Alors, si Dieu travaille ainsi, et que ça pourrait, voilà, et qu'on pourrait croire de notre côté une facilité, il y a là, en fait, une action de plus en plus forte de consentement et de liberté qui finalement nous fera dire comme Marie qu'il me soit fait selon ta parole. On mesure, en contemplant un peu la vie de Marie, le poids de cet engagement. Tout n'est pas fini une fois qu'elle a prononcé cette parole. Elle a à l'incarner. Et quand l'enfant Jésus va fuir au temple, enfin va fuir, va rester au temple alors qu'il rentre, elle va vivre ça comme une chute de sa part. Voilà un lieu où elle a lieu à redire. Intérieurement, qu'il me soit fait selon ta parole, alors qu'elle ne comprend pas. Mais elle a déjà dû commencer à le dire lorsque, enceinte, elle apprend qu'il faut qu'elle suive Joseph pour aller à Bethléem. Elle a dû se dire, il y tient vraiment à son enfant, celui-là, de me faire faire ces kilomètres pour ce recensement. Bon, voilà, je prends des exemples, mais choisis des lieux précis où Marie a dû incarner dans cette vie ce consentement, vous voyez, à ce Dieu qui a pris les rênes dans sa vie. Par son consentement. Il y a donc une souplesse, on peut dire, un consentement bien souvent renouvelé n'est pas séparable de l'expérience de la souffrance ici-bas, au ciel, que nous goûterons l'union avec Dieu sans cette douleur. Le péché nous fait éprouver cette douleur. Marie, au pied de la croix, elle a cru, mais elle a aussi souffert. Et je crois qu'il y a aussi ce mécanisme. Il faut le dire, parce que lorsque nous éprouvons nous-mêmes douloureusement notre difficulté à consentir, à nous laisser façonner par celui qui œuvre dans la prière, ne nous disons pas, voilà, si je souffre, c'est que je ne suis pas sur la voie, ou c'est pas possible que le Seigneur me mette dans cette condition. Non. La souffrance provient de cet écart, de cet écart et de cette purification de notre de nous-mêmes, en fait, de notre personne. La sagesse du Seigneur n'a qu'un but, c'est cette union, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est lui qui fait de l'Église un seul corps. C'est lui qui nous unit au Seigneur et qui nous unit entre nous, nous y contribuons en lui demandant d'opérer cela en nous, et il y œuvre dès lors que nous le laissons faire. Mais il y a cette demande au départ, il y a cette acceptation pour nous, et il y a cette demande à nous envoyer. Et là aussi, il y a la douleur de ce renouvellement finalement permanent. Voilà. Et ainsi, ce chemin de la vie spirituelle tout entière, par l'oraison, est marqué par cette progression de l'action de Dieu, on pourrait dire cette domination progressive de Dieu sur notre âme, dans un consentement souvent renouvelé. Et ce qui fait dire à Saint Jean de la Croix qu'il est comme l'unique agent. Oui, on peut dire cela. Il est l'unique agent dès lors que nous le laissons l'être. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, il n'est pas l'unique. Il y a le sujet qui le reçoit, voyez, qui lui ouvre sans arrêt sa porte. Mais il devient, voilà, il entre et il prédomine. Ceux-là sont mus par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu, nous dit Saint Paul. Ceux-là qui sont mus par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est ceux-là qui sont identifiés aux fils qui, mus par l'Esprit, communient au Père et qui, par là, révèlent qui il est et donnent la possibilité, par l'Esprit qui nous communique, nous donne la possibilité de nous unir au Père. Eh bien, ce mouvement, il est vrai aussi pour nous. Et je vais terminer par là, après je reprendrai des occurrences dans l'Évangile pour nourrir notre prière. Lorsque nous-mêmes, nous nous unissons au Christ par l'Esprit Saint que nous avons reçu, qui nous a été donné et qui demeure en nous, alors nous nous tournons, nous communions par la nuit au Père. Et dans cette communion au Père, nous pouvons croire mystérieusement que l'Esprit Saint, qui a révélé au baptême de Jésus, qui nous a révélé qui il était et sa mission, révèle aussi à nos frères la source de ce qui nous fait vivre. Et nous devenons missionnaires, j'allais dire, sans rien faire d'autre, que vouloir communier au Christ et par lui dans l'Esprit au Père. Parce que l'Esprit Saint lui-même révèle, indique, dit la source de l'amour, tout simplement. C'est cet Esprit Saint qui nous fait trouver le Christ, qui est l'amour du Père et du Fils, qui nous unit à lui et par lui nous conduit au Père, qui indiquera à ceux qui entreront en contact avec nous la fibre de ce que nous construisons. Et ainsi, l'œuvre de l'Esprit, cet ouvrier qui conduit tout, cette œuvre de Dieu, du corps du Christ, qui tisse. On pourrait dire comme à l'envers, vous savez, quand on tisse, bien souvent le tissu est à l'envers. Donc on ne voit pas, on est dans l'obscurité de la toile, mais pourtant c'est bien la toile qui se tisse, qui se maille, qui se serre, c'est bien cette communion qui grandit au cœur de l'Église, dans la famille humaine, par cet agent qui est l'Esprit Saint, que nous laissons agir en nous, et qui finalement, par nous, du coup, construit le corps du Christ, c'est l'Église. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Alors, on va entrer dans l'oraison, simplement je me rends bien compte que voilà, ça va assez vite, et je crois que j'ai parlé de quelque chose qui me dépasse complètement. On en a un petit peu l'expérience, mais c'est pas parce qu'on n'en a pas la maîtrise, je crois qu'on ne l'aura jamais, qu'il ne faut pas en parler, au contraire c'est capital, mais je voudrais reprendre ces occurrences de l'Esprit-Saint dans l'Évangile de Luc, pour peut-être que dans notre prière, nous puissions en repérer certaines aussi chez nous, de manière à nous placer en sa présence maintenant. Celui qui vient, il sera rempli de l'Esprit-Saint. C'est bien Jésus, c'est la première occurrence. Jésus sera rempli d'Esprit-Saint. La deuxième, c'est Marie. L'Esprit-Saint viendra sur toi. La troisième, c'est Élisabeth. Et je prendrai ce texte tout à l'heure pour nous aider à prier. À l'approche de Jésus, qui n'est alors qu'un amas de cellules, elle n'est pas enceinte depuis longtemps, Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint. Et c'est-à-dire, elle pose cet acte de foi, béni soit, alors voilà, la mère de mon Sauveur qui vient à moi. Et ensuite, c'est Zacharie qui est rempli d'Esprit-Saint. Puis Siméon, est encourageant, des pécheurs comme nous, qui à la proximité de celui qui vient, qui dans l'Esprit Saint reconnaissent celui qui vient. Mais c'est déjà par lui qu'ils ont reçu évidemment cette grâce. Deux occurrences pour Siméon, averti par l'Esprit Saint et qui dans l'Esprit Saint le reconnaît lorsque Jésus est présenté au temple. Au chapitre 3, Jean-Baptiste qui annonce « Il vous baptisera dans l'Esprit Saint ». Et lui, l'Esprit Saint descend sur lui sous forme d'une colombe. Alors l'Esprit Saint, évidemment, il n'y a pas de corps. Mais justement, peut-être n'est-ce pas le signe, cette colombe qui descend sur lui sous la forme d'une colombe, donc incarnée, n'est-ce pas l'annonce de cet Esprit Saint par le baptême précisément, c'est-à-dire il va prendre corps en nous, il vient habiter chez nous. Ensuite, rempli d'Esprit Saint, Jésus est poussé au désert. Là où il sera tenté, il est poussé ensuite plusieurs fois dans l'Évangile. Alors moi j'ai pris que les occurrences de l'Esprit Saint. Mais il est poussé plusieurs fois par l'Esprit pour prier sur la montagne, avant d'appeler ses apôtres. Des tas de passages. Il jubile de joie sous l'action de l'Esprit Saint, il bénit le Père qui lui a donné de révéler finalement son mystère, le mystère divin, de nous révéler à nous pauvres petits ce mystère de Dieu, joie de l'Esprit Saint que nous pouvons goûter. Moi j'ai parlé de l'aridité, mais bien voilà, nous avons surtout au début de la vie d'oraison, lorsque nous expérimentons, nous sentons aussi notre action, notre volonté de prier, nous goûtons aussi ces moments de joie, simplement de joie d'avoir pu prendre ce temps, d'avoir pu exprimer au Seigneur cet amour. Puis petit à petit, cela effectivement se purifie, mais les joies, encore une fois, les fruits de l'oraison, c'est dans toute notre vie qu'il faut nous pouvons les discerner. Et puis au chapitre 11, combien plus que celui que j'ai vu, Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui le prient. Alors ensuite, l'avant-dernière occurrence, c'est lorsque Jésus évoque le péché contre l'Esprit Saint. Alors on voit bien, mais c'est l'inverse, on voit bien, on ne voit pas, mais c'est mystérieux, moi, comme je comprends. Je comprends bien que le péché contre l'Esprit Saint, c'est précisément celui qui consisterait à empêcher son action. Là, Dieu ne peut rien faire. C'est pas qu'il n'est plus miséricordieux, mais le péché contre l'Esprit Saint. Enfin, voilà, empêcher l'Esprit Saint, à mon avis, il faut être très fort. Enfin, plutôt très faible, mais bon, c'est un peu mystérieux, mais vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose, pas de cet ordre, voilà, qui dit en tout cas quelque chose de ce consentement qu'il y a à donner à l'action de Dieu et donc aussi à sa miséricorde, à son pardon. Et enfin, le dernier, l'Esprit Saint vous enseignera ce que vous aurez à dire. Voilà. Alors ça, je vous le retransmets pour notre prière que nous allons prendre maintenant, avec l'évangile de la visitation. Pourquoi je garde cet évangile? Parce que, justement, voilà, on a vu, on voit un petit peu le mécanisme, je n'ai pas détaillé, on pourrait le reprendre de Marie, voilà, le travail de son, cette surprise, l'accueil de cette part de Dieu, l'initiative de Dieu qui nous donne comme ce rendez-vous à nous dans la prière, cette réflexion, cette méditation dans l'intelligence et dans la confiance en celui qui s'est adressé à lui sera le Fils de Dieu. Marie comprend bien, il s'agit d'être la mère du Messie et elle veut comprendre comment cela peut se faire, et Jésus qui l'invite à cette foi totale, c'est l'Esprit Saint qui te prendra sous ton ombre. Et le premier fruit, voilà, de cette action, bien sûr, c'est qu'en elle est conçu le Messie, mais c'est aussi ce départ chez sa cousine. Et vous avez remarqué qu'elle ne s'appuie pas sur le signe qu'elle a reçu, c'est là la pureté aussi de Marie. L'ange lui a dit, sa cousine Élisabeth est enceinte, elle en est à son sixième mois, elle aurait pu aller vérifier avant de dire qu'il me soit fait selon ta parole. Elle consent, et ensuite elle ne va pas voir sa cousine pour vérifier le signe, elle y va pour l'aider. Elle y va pour lui porter celui qu'elle porte déjà. Et donc voilà, nous allons poursuivre notre prière ainsi. Alors d'une manière un petit peu pratique, il faut décider évidemment ce rendez-vous. Et donc je vous invite à vous y exercer entre deux rencontres. La semaine prochaine, nous approfondirons ce contact de foi et la foi. Mais d'ici là, nous pouvons prendre notre agenda et prendre un ou plusieurs rendez-vous. Il est important de décider le temps. Alors j'ai bien entendu les remarques de ceux qui m'ont dit que c'était long, le temps que nous avions pris hier, la semaine dernière. Mais c'est important de persévérer. Je crois que nous pouvons nous aider ensemble à tenir dans ces 20 minutes que nous allons prendre ensemble maintenant. Alors je vais essayer de les alimenter peut-être un peu plus, mais je crois vraiment important que nous essayions d'affronter un peu cette durée pour nous exercer, voilà, dans la foi, à la fois dans ce recueillement, dans cet accueil de cette action du Seigneur que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas, mais que nous croyons, voilà, avec Marie, avec cet esprit que Jésus nous donne.